Mikkel Sebastiel.
Oh, Mikkel Sebastiel.
Des nouvelles du monde.
Monsieur, des informations, il y en a plein, hein. Par exemple, bon, il y en a plein, hein. Les informations, ça manque pas, mais il faut choisir, hein, pour les dire.
Revue de presse, de médias libres ou pas, interview, communiqué. Les nouvelles du monde, c'est avant tout un regard critique sur l'actualité, du local à l'international.
Le problème de l'action intellectuelle est difficile en grande partie à cause des journalistes.
Les nouvelles du monde, c'est tous les mardis et jeudis à 12h30 sur Radio Escapade, rediffusion à 19h30.
Des nouvelles du monde.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans les nouvelles du monde pour ce jeudi 6 mars 2025. On va laisser reposer un petit peu tout ce qui a été dit sur le réarmement de l'Europe et les déboires entre Trump, la Russie, l'Ukraine, etc., etc. Ça fait des gros paquets, on va plutôt aller faire justement des petits sentiers de traverse, voir un petit peu quelques brèves que continue de nous réserver l'actualité. Malgré l'écrasement de certains sujets sur d'autres. Et on va commencer tout de suite en revenant sur cette victoire historique de la semaine dernière qui a eu lieu en France, celle des opposants à l'autoroute A69. Car oui, on en parlait mardi dernier, la nouvelle est tombée juste après dans l'après-midi. Donc le chantier de la 69 Toulouse-Castres a bien été jugé illégal par le tribunal administratif de Toulouse. Il a donc été stoppé net. Et car le tribunal administratif a bien jugé que ce chantier n'était pas d'un intérêt public suffisant pour justifier la destruction d'espèces protégées. C'était sur ce point environnemental et écologique que se jouait toute la bataille. Une décision historique donc qui porte un coup d'arrêt définitif un projet inutile, destructeur et irresponsable. Ce sont les mots du collectif La Voix est libre qui se réjouissait du verdict du 27 février avec justement l'aspect illégal de ce chantier qui a été validé et qui doit donc être immédiatement arrêté. Les travaux ont déjà malgré tout bien avancé. Mais c'est quand même la première fois en France qu'un projet d'infrastructure d'une telle envergure a été annulé par la justice alors qu'il avait déjà été commencé. Les magistrats ont en effet décidé de suivre les conclusions de la rapporteuse publique, qui avait d'ailleurs rendu un rapport par deux fois, et qui demandait une annulation totale de l'autorisation environnementale qui avait été émise il y a longtemps pour ce projet. C'est notamment la conformité de la dérogation sur les espèces protégées que le débat a été vif et en tout cas suivi très près par les juges. Ce droit permet de porter atteinte à l'environnement si et seulement si la raison impérative d'intérêt public majeur est prouvée. Et donc, pour l'autoroute, la défense n'y est pas parvenue. Donc, dans l'intérêt public majeur, ça serait par exemple les questions de désenclavement de territoire. Visiblement, la nationale qui est déjà là faisait le job. Et puis, les coûts de l'autoroute, et puis les dégâts aussi sur pas mal d'autres routes de ces communes ne justifiaient pas donc l'intérêt majeur. Hormis, bien sûr, l'intérêt peut-être pour l'industriel Pierre Fabre qui milite depuis très longtemps pour ce projet et qui, ainsi que de nombreux édiles et élus de cette région, vont continuer d'essayer de faire avancer le projet en faisant appel. En tout cas, le dépôt de cette première demande de suspension du chantier par les collectifs opposés à la 69 remonte au mois de mars 2023. Il aura donc fallu quand même deux ans de bataille judiciaire, au cours de laquelle le concessionnaire Atosca a eu tout le luxe d'avancer ses travaux. Vous vous rappelez certainement de toutes les occupations d'arbres et expulsions de ZAD. Pour autant, aujourd'hui, toujours aucune goutte de bitume n'a été coulée, puisqu'il est censé quand même normalement s'étendre ce ruban de bitume sur 53 km entre Toulouse et Castres. Si cette victoire évite des dégâts irréversibles, déplorent les amis de la terre, elle ne pourra jamais compenser les pertes déjà subies. Des familles expulsées, des terres agricoles irrécupérablement abîmées, des écosystèmes détruits et un paysage mutilé. Immédiatement, les collectifs d'opposition à la 69 ont, suite à cette décision, appelé l'État à la responsabilité en lui réclamant de ne pas faire appel de la décision. Cette demande a été aussitôt balayée par le ministère chargé des Transports puisqu'il a déclaré dans un communiqué qu'il faisait non seulement appel, mais qu'il demandait un sursis à exécution. Encore une manière de faire poursuivre les travaux jusqu'à la prochaine audience. Ils essaient de faire avancer l'autoroute, et une fois qu'il sera fini, c'est la politique du déjà fait. Mais il est possible, en tous les cas, que des travaux soient démantelés. Ça s'est déjà vu sur des choses, certes, moins imposantes que cette autoroute, mais en tout cas, le droit le permet. Et pendant qu'on parle de se réarmer et que la menace de la Russie fait de nouveau les choux gras de la presse et des allocutions présidentielles, Greenpeace, l'ONG Greenpeace, dénonce une nouvelle livraison d'uranium russe à la France. Un petit pavé radioactif dans la mare, au niveau timing en tout cas. C'est donc l'antenne française de l'ONG Greenpeace qui a repéré hier, lundi 3 mars au matin, dans le port de Dunkerque, un nouveau déchargement d'uranium naturel. Il y a un déchargement donc issu d'un cargo en provenance de Saint-Pétersbourg, ce qui prouve donc que la France continue d'importer de l'uranium enrichi russe. Par ce commerce, la France alimente la guerre en Ukraine, en totale contradiction avec les positions officielles du gouvernement français sur son soutien au peuple ukrainien, dénonce dans son communiqué Greenpeace. Et ce alors que la guerre entre dans une étape décisive après la suspension de l'aide états-unienne à l'Ukraine. La dépendance française à l'uranium russe est dénoncée depuis le début de ce conflit en 2022. D'après les chiffres compilés par Greenpeace, un quart de l'uranium enrichi qui est importé sur le territoire français provient de Russie pour l'année 2024. Alors que l'Ukraine a plus que jamais besoin de soutien, il est indécent que ce commerce d'uranium continue entre l'industrie française et l'entreprise criminelle Rosatom. Réagissait Pauline Boyer, chargée de campagne pour Greenpeace. Le gouvernement français doit mettre en accord ses paroles et ses actes et entériner la rupture de tous les contrats la liant à Rosatom en solidarité avec le peuple ukrainien.
Il y a de quoi se vendre la gueule, non ?
Du rififi toujours à midi libre auprès de ses correspondants locaux qui sont déjà très peu payés et ils viennent de voir s'annoncer une nouvelle baisse. 700 correspondants, hein, ça représente pour midi libre. Ce sont donc des non-journalistes professionnels qui chroniquent la vie de leur commune pour le quotidien qui est possédé par la puissante famille Bailey. Eh bien, ils se sont vus annoncer récemment une baisse de leurs honoraires pouvant aller jusqu'à 33% pour certains articles. Ces journalistes, les correspondants locaux que vous voyez souvent, dont vous voyez les initiales en bas des articles qui souvent s'intéressent à la vie locale, notamment les actions, les activités et les informations à la campagne, eh bien ce ne sont pas des journalistes professionnels, hein, ils vont là où les pros ne vont pas justement. Ce correspondant local de presse, c'est son nom officiel, peut être salarié ailleurs, retraité ou bien travailleur indépendant. Il collecte l'information relative à une zone géographique déterminée pour produire un petit papier qui sera relu et mis en page ensuite par un journaliste professionnel. C'est donc une aubaine pour les rédactions des journaux qui peuvent ainsi réduire les coûts en payant au lance-pierre ces centaines de collaborateurs. Car ce contrat donc de correspondant local de presse est très précaire. Hein. Pour une journée, on est payé au maximum 30 euros pour un article. Ça fait 27 euros pour le texte et 3 euros pour la photo que vous prenez avec votre propre téléphone, bien évidemment. Et voilà donc que ce 1er février, Midi Libre a décidé sans concertation de baisser ses tarifs. Dans un courrier interne, il informait ses correspondants que les articles initiatives, hein, ça ce sont les, c'est une rubrique qui s'appelle initiative avec la photo, passaient de 30 euros à 20 euros. Et pour ce qui est des contenus enrichis, donc avec des textes un peu plus longs, on passe de 20 à 17 euros. Ces derniers représentent plus de 50% de l'activité de ces correspondants locaux, et le tout donc, le tout en demandant à leurs correspondants de plus s'impliquer, notamment dans la vente d'abonnements du journal. Ils doivent être en plus représentants, et ils se déplacent évidemment avec leur propre voiture. Du côté du collectif national des correspondants locaux de la presse, qui a été rejoint par la CFDT Journalistes, ils ont annoncé soutenir le mouvement de protestation qui naît justement suite à cette annonce par les correspondants de Midi Libre. Ils réclament au moins une concertation avec la direction. Dans France 3 Régions, on lit que le budget annuel des correspondants est aujourd'hui de 1,3 million d'euros. Un budget qui a été augmenté avant d'être baissé suite au plan de départ de 45 postes de journalistes et assistantes pour 2023. Les correspondants locaux ont ainsi plus ou moins remplacé les postes désormais vacants des journalistes pour remplir les pages du journal. C'est un article que j'ai trouvé dans le journal Le Point avec un G qui conclut ainsi. Ils disent qu'au point, ils sont convaincus que l'actualité locale au plus près des gens reste essentielle en se questionnant tout comme malgré tout et en rappelant que le quotidien Midi Libre et biberonné aux subventions publiques locales que Jean-Michel Bailey, le patron du groupe La Dépêche du Midi, auquel appartient Midi Libre, faisait partie des 500 plus grosses fortunes professionnelles de France en 2007, selon le magazine Challenge, avec 61 millions d'euros. Sachant cela, il pose la question, est-ce aux journalistes et aux correspondants locaux de payer la baisse des ventes du journal ? Bref, il reste sur ce constat amer de la décadence de la presse dominante et vous invite une fois de plus à soutenir vos médias indépendants de proximité, notamment en vous abonnant sur le site internet, par exemple, du Point, ou en mettant une petite adhésion à Radio Escapade aussi. Ça ne nous fera pas de mal. Environnement avec une nouvelle sur les frelons asiatiques hein, qui sont toujours plus nombreux. Leur vrai nom, c'est frelons à pattes jaunes. Ils s'attaquent à des centaines d'espèces d'insectes indigènes en Europe. Et une étude publiée ce 4 mars dans Science of the Total Environment, on y lit que les chercheurs de l'université d'Exeter mettent en garde contre un risque d'une grave dégradation de nos écosystèmes. Puisqu'en effet, de nombreuses de ces espèces qui sont chassées par les frelons à pattes jaunes ou les frelons asiatiques sont d'importants pollinisateurs des cultures. À rappeler quand même que le frelon asiatique est lui-même un pollinisateur, mais vu les dégâts qu'il fait chez ses congénères insectes, le gain n'est pas. C'est plutôt une perte de nombre de pollinisateurs total que cette catastrophe engendre. Les chercheurs ont en effet identifié pas moins de 1449 traces d'espèces différentes dans l'estomac de ces larves de frelons asiatiques, à savoir des abeilles, bien évidemment, des guêpes, des mouches, des coléoptères, des papillons, des mites et même des araignées. Ce sont des prédateurs extrêmement flexibles, explique l'autrice principale de l'étude, Sifrea Pedersen. Pour ce qui est de l'abeille européenne, eh bien c'est quand même malgré tout le plat préféré de ces frelons qui défoncent complètement les ruches quand ils tombent dessus. Dans la conclusion de ce papier, Peter Kennedy, hein, de la même université, déclare que l'étude fournit des preuves importantes de la menace que représentent les frelons asiatiques à mesure qu'ils se répandent en Europe, accentuant le déclin des pollinisateurs déjà menacés par la destruction des habitats et la pollution, notamment des insecticides. C'est dans 2 jours, le 8 mars, la journée internationale pour le droit des femmes et des minorités de genre. Et à Paris, les grosses manifestations se préparent avec toujours des points de tension. Et c'est notamment dans les revues, dans les colonnes de Street Press, un journal qui s'intéresse plus particulièrement à l'extrême droite, qu'on s'intéresse à la présence ou non du groupe de militantes d'extrême droite Némésis qui veulent à nouveau défiler dans le cortège du 8 mars ce Paris. L'année dernière, elle l'avait fait encadrer par les forces de l'ordre lors de la marche Nous Toutes, c'était en novembre 2024. Elles veulent donc intégrer dans un cortège ouvert cette grande marche du 8 mars. Les organisations féministes, organisatrices et participatrices, s'y opposent frontalement. Nous refusons l'instrumentalisation des luttes pour les droits des femmes à des fins racistes par Némésis et par l'extrême droite en général. Martel, par exemple, Anne Leclerc du collectif national pour les droits des femmes qui co-organise donc les manifestations de ce 8 mars. Alors que faire bloc contre la percée de l'extrême droite dans Le Monde est justement un des mots d'ordre de la marche de cette année, rappelant que l'extrême droite menace les droits des femmes dans le monde, eh bien ce collectif fémonationaliste, c'est ainsi qu'elle se définit, Némésis, qui est connu pour s'incruster dans les manifs féministes en faisant des coups médiatiques, eh bien elles ont fait part de leur intention pour la première fois d'avoir un cortège ouvert dans cette manif unitaire. Une annonce qui secoue donc le mouvement féministe déjà agacé par le cortège organisé en novembre 2024. À l'époque, elles avaient été, je vous le disais, encadrées par les forces de l'ordre et ces militantes avaient ainsi pu défiler tout l'après-midi sur la quasi-totalité du parcours de la manifestation. Cette fois-ci, en tout cas, pas question de laisser Némésis défiler. Les organisatrices de grève féministe, la manifestation grève féministe, ont pris des mesures pour que la situation ne se reproduise pas. C'est ce qu'explique Myriam Lepkiri, secrétaire confédérale de la CGT. Elle explique: tout n'est pas encore défini, notamment parce qu'on attend un retour de la préfecture de police sur le parcours définitif, mais elle promet qu'ils refuseront de démarrer la manifestation si jamais Némésis est tolérée et présente sur le rassemblement. Même son de cloche d'ailleurs du côté de Nous Toutes, qui se dit prêt aussi à arrêter son cortège à tout moment. Mais ce qui nous inquiète surtout, c'est la normalisation de Némésis, explique toujours la syndicaliste Myriam Lepkiri. Il y a eu un point de bascule, dit-elle, lorsque Bruno Retailleau a déclaré publiquement partager leur combat. Elles veulent clairement continuer dans cette voie-là. Dans Némésis, par exemple, l'eurodéputé Reconquête Sarah Knafo a annoncé son intention de défiler aux côtés de ce collectif fémo-nationaliste. Quant à la préfecture de Paris, elle n'a pour l'instant pas souhaité s'exprimer officiellement sur le sujet en évoquant des informations sensibles. La veille de ce 8 mars, à savoir donc le vendredi 7, dans plusieurs villes de France vont également s'organiser des rassemblements et des marches par le mouvement Stand Up for Science. Ce sont donc des scientifiques qui appellent tous ceux qu'ils souhaitent à les rejoindre pour discuter de l'état de la recherche et de son financement et défendre la liberté académique en France et aux États-Unis. En effet, depuis son investiture, Donald Trump a pris un ensemble de mesures marquantes pour la recherche scientifique, enfin plutôt contre la recherche scientifique aux États-Unis à travers son financement. Une série d'annonces dont je vous ai parlé la semaine dernière qui a provoqué l'inquiétude et l'indignation de nombreux scientifiques, notamment l'interdiction d'utiliser énormément de termes issus du milieu des sciences sociales, tout ce qui avait le trait par exemple au genre ou aux origines ethniques, ce qui permet aux États-Unis notamment bien de mettre en place ensuite des mesures de santé publique ou d'inclusion au niveau social. Cette série d'annonces a provoqué l'inquiétude et l'indignation de nombreux scientifiques, et c'est donc dans ce contexte de bouleversement que la mobilisation Stand Up for Science, donc Levons-nous pour la science, a émergé aux États-Unis. Ce 7 mars 2025, plusieurs rassemblements auront donc lieu pour défendre la science en tant que bien commun et pilier du progrès social, politique et économique. Ils souhaitent appeler les décideurs politiques, les institutions et la communauté scientifique à préserver l'intégrité de la science, à protéger son accessibilité et à veiller à ce que ses bénéfices profitent à tous. En écho à cette journée, donc, une version française de la Stand Up for Science est organisée dans chaque ville universitaire de France ce vendredi. C'est l'astrophysicien Olivier Bernier qui l'a initié, avec également le biologiste Patrick Lemaire et l'historienne Emmanuelle Pérez-Tisserand. Ils sont soutenus dans leur démarche par 47 scientifiques français de renom qui s'étaient déjà engagés en 2017 lors de la marche pour les sciences. Ce mouvement, donc, je vous le dis, vise à informer de la situation aux États-Unis, à apporter un soutien aux collègues chercheurs outre-Atlantique, défendre la liberté académique, rappeler la situation précaire des universités françaises et échanger entre citoyens de la recherche scientifique et de son financement. Et au vu des dernières déclarations sur les restrictions en vue de faire encore un effort de guerre au niveau européen, nul doute que les scientifiques européens et français vont encore subir un rétrécissement de leur financement et surtout un fléchage des recherches, notamment pour aller alimenter les grands groupes industriels ou la recherche militaire. Ah oui, j'ai oublié de vous dire, si vous souhaitez des informations, puisqu'il y aura évidemment une branche montpelliéraine qui se joindra à cette mobilisation, il y a un site qui s'appelle Stand Up for Science avec une carte et vous pouvez cliquer et trouver les lieux et dates de ces rassemblements. Eh bien, on va terminer justement avec un petit peu de pub, même si ça a déjà été fait par Julie dans l'agenda, pour le festival Mauvais Genre au Vigan, justement pour cette journée des droits des femmes et d'égalité des genres développée sur 3 journées, donc du 6 au 8 mars, avec la mairie du Vigan qui pilote tout ça, en partenariat avec les compagnies Poupette Sporting Club et La Marante, le théâtre Albaret de Grange. C'est donc la 4e édition que le festival Mauvais Genre a lieu. Cette manifestation accompagne et prolonge la journée pour le droit des femmes qui a lieu ce samedi 8 mars. Des projections, des débats, spectacles, apéro-papote toute la journée. L'alimentation sera le sujet principal pour cette édition, puisque c'est un enjeu politique et social. Avec ces questions, quelle est la place des femmes dans les métiers de la production alimentaire et de la restauration? Au quotidien, qui cuisine? L'accès à une alimentation équilibrée est-il garanti pour toutes et tous? En quoi les injections qui pèsent sur le corps des femmes impactent-elles leur rapport à l'alimentation? Voilà de nombreuses questions à développer sur ces 3 journées. Et autrice, réalisatrice, artiste, chercheuse seront justement conviées pour défricher tous ces sujets. Elsa Lewin, qui est 3e adjointe à la maire du Vigan, explique que ce sera un moment de réflexion et de divertissement qui repose chaque année sur un thème particulier et souvent, dit-elle, pour cette année, l'alimentation, les femmes sont les premières touchées dans la difficulté à accéder à une alimentation équilibrée. D'ailleurs, c'est pour cette raison que Radio Escapade se joint aussi une fois de plus à la partie et nous serons sur place pour un plateau radio qui se tiendra du côté de la mairie, donc pendant le marché, de 11h à 12h30 environ, avec justement de nombreuses de ces intervenantes qui viendront expliquer un petit peu l'objet de leur recherche ou de leur démarche artistique. On sera donc en plateau radio, diffusé en direct sur les ondes, mais si vous êtes au Vigan, vous pourrez passer nous voir. Et qu'est-ce que je voulais vous dire encore là-dessus ? Eh bien que l'inauguration de ce festival, oui, donc ce soir à 18h30, verra aussi l'inauguration de la nouvelle rue Gisèle Halimi au Vigan, une rue qui a été créée devant le pôle d'enseignement supérieur. La clôture du festival le samedi donnera, elle, lieu à une boum de mauvais genre. La manifestation se poursuivra en plus la semaine suivante à travers la tenue de deux ateliers gratuits sur inscription obligatoire, un atelier d'autodéfense féministe et de mécanique auto avec deux sessions par jour. Voilà, si vous souhaitez le programme, vous allez sur le site de la mairie du Vigan, levigan.fr. Et j'en profite aussi pour vous annoncer qu'à Ganges, le 8 mars, avec notamment l'Union Locale CGT et de nombreux autres collectifs sur place, une manifestation féministe débutera à 11h devant la clinique Saint-Louis, avec notamment comme mot d'ordre la retraite à 60 ans, l'égalité salariale homme-femme et surtout une maternité pour le territoire.
Ah oui, carrément.
Qu'est-ce qu'il fout en milieu rural aussi ?
Il nous reste quelques minutes, on va terminer en musique en rendant un petit hommage à le Iggy Pop du Luberon, comme on l'appelait, le décès de Christian Picard, alias Carton, chanteur emblématique des Raoul Petit. Raoul Petit était le plus vieux groupe de rock français encore en activité. Eh bien, il est mort ce vendredi 28 février, en fin de journée, à l'âge de 75 ans. Il souffrait depuis plusieurs mois de la maladie de Charcot. Les Raoul Petit, ça a été créé en 79, au cœur du Vaucluse, donc dans le Luberon, où il vivait, et un artiste très généreux et toujours d'attaque sur scène. Moi, j'ai eu la chance de jouer avec lui l'année dernière. Voilà, depuis l'annonce, les hommages pleuvent. Et donc, on va terminer avec cette petite note, j'espère, inspirante des Raoul Petit. Soyons légers.
Les mauvais sentiments, quand on s'énerve, on rate la cible, on devient très vite irascible, on nourrit l'angoisse, on se porte la poisse, mais faut se détendre, à quoi ça sert d'attendre?
Soyons légers,
légers et insouciants,
avant que tout
ne foute le camp. Seras-tu avec nous? Antidépresseurs, somnifères, stéroïdes pour droïdes, anabolisants anxiolytiques, amphétamines pour grismine, je tasse, j'entasse, j'emmagasine les toxines, soyons organiques, soyons orgasmiques.
Alors, soyons légers,
légers et insouciants,
avant que tout
ne foute le camp. Seras-tu avec nous?
Soyons légers,
légers et insouciants,
avant que tout
ne foute le camp.
Soyons légers,
légers et insouciants,
mais avant tout,
seras-tu avec nous? La compassion qui bat de l'aile, y a du souci à se faire, il sera toujours temps, temps de faire la guerre. En attendant, je me chimique, j'ai la trique héroïque. On me nourrit de la peur, mais j'anticipe le malheur.
Monsieur des informations, il y en a plein, hein. Par exemple, bon, il y en a plein, hein. Les informations, ça manque pas, mais il faut choisir, hein, pour les dire.
Des nouvelles du monde.
Revue de presse, de médias libres ou pas, interview, communiqué. Les nouvelles du monde, c'est avant tout un regard critique sur l'actualité, du local à l'international.
Mais que se passe-t-il ?
Mais que se passe-t-il ?
Oh, mais qu'est-ce qui se passe ?
Les nouvelles du monde, c'est tous les mardis et jeudis à 12h30 sur Radio Escapade, rediffusion à 19h30. Et pour y apporter votre contribution, info@radioescapades.org.